Et on va s'intéresser avec notre ami Daniel Habert, justement, sur le retour de la guerre de communication ainsi que des fake news dans cette guerre qui oppose Israël au Hamas. Voici ce qu'il en pense.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale et cette semaine, en ce lundi matin, nous allons parler d'une chose dont on parle très peu, ou en tout cas nous en parlons dans la conversation. On parle beaucoup des opérations militaires, de la diplomatie, c'est assez secret. L'autre guerre, c'est celle de la communication, Daniel Habert.
Oui, et c'est peut-être celle qui est la plus douloureuse aux oreilles des Israéliens et des Juifs dans le monde, parce que l'accumulation de ce qu'on appelle les fake news est terrible. Ça frise l'ignominie et on ne sait pas comment lutter. Je voudrais quand même rappeler les cinq grandes fake news qui accablent Israël en ce moment. La première, et sur laquelle je vais m'attarder tout à l'heure en essayant de la décortiquer, de montrer comment ça a été opéré, et comment ça a d'une certaine manière réussi, qui est de faire croire que l'attaque du Hamas du 7 octobre était liée à la question palestinienne, qu'elle avait pour objectif de remettre la question palestinienne au centre des intérêts et d'aboutir à une solution dite à deux États. Ça, c'est la fake news de loin la plus importante que je vais analyser. Les autres, par exemple, que les bombardements sont une vengeance d'Israël sur l'attaque, alors qu'elle est tout simplement une décision stratégique inévitable, incontournable, qu'aucun autre pays n'aurait pu éviter. Donc c'est quelque chose de tout à fait légitime et pas du tout un acte de vengeance. La troisième fake news, c'est de dire que l'aviation israélienne vise des cibles soi-disant indiscriminées, alors qu'aucune aviation dans le monde ne fait autant d'efforts pour éviter justement les dommages collatéraux. Moi, je suis témoin de ça parce que j'ai des amis qui sont pilotes ou fils ou pères de pilotes, et donc je leur parle très souvent, et la pression sur les pilotes justement pour qu'ils évitent les dommages collatéraux est gigantesque. Quatrième fake news, c'est l'idée d'un nettoyage ethnique dans la bande des Gaza, sous prétexte que 80% des Gazaouis ont bougé, mais ils ont bougé à l'intérieur de leur territoire, ils n'ont pas quitté ce territoire, c'est pas un nettoyage ethnique, c'était juste des précautions justement prises par l'armée israélienne pour séparer les combattants des non-combattants et éviter les dommages collatéraux. Et la dernière, celle qui a incité l'Afrique du Sud à faire un procès à Israël devant la Cour internationale de justice, l'idée qu'Israël commettrait un génocide. La décision de la Cour de justice rend justice à ça. S'il y avait eu un génocide, elle aurait évidemment ordonné un cessez-le-feu immédiat, ce qu'elle n'a pas fait. Donc il faut retenir, et au-delà de toutes les analyses qu'on a pu entendre autour de cette décision de la Cour de justice, une seule, c'est que c'est pas un génocide. Donc c'est un début de victoire, et peut-être la défaite d'Israël dans cette guerre de communication, peut-être que on va y mettre fin. Alors je voudrais revenir sur la fake news principale, parce que au fond elle est une victoire totale de ceux qui ont imposé cette fake news. C'est l'idée que tout ça en ce moment se passe sous le prétexte de la question palestinienne, alors que la vraie question, la vraie raison de l'attaque du Hamas, c'est la question iranienne et pas du tout palestinienne, et que la preuve que c'est pas du tout pour remettre au centre du jeu la question palestinienne, c'est la nature même de la barbarie de l'attaque, qui a pour but d'empêcher une négociation, alors qu'on prétend qu'elle a pour but de raviver une négociation. L'autre preuve qu'on a, c'est, je vais y revenir aussi, c'est les thèmes qui ont été brandis pendant les manifestations, qui disaient libérer la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire il n'est pas question d'une solution à deux États, nous on veut un État arabe qui remplace Israël. Donc on voit bien que cette fake news, elle est dominante, et je vais essayer de la décortiquer, montrer comment elle s'est mise en place. Et ce que je vais dire là, elle s'appliquerait à toutes les autres fake news que j'ai citées. La première, c'est qu'il faut un concepteur. Et le concepteur, la seule organisation au monde capable de provoquer des manifestations dans plus d'une centaine de pays autour du même thème, libérer la Palestine de la rivière à la mer, avec les mêmes drapeaux innombrables palestiniens qui étaient prêts du jour au lendemain. Donc on voit bien que tout ça a fait l'objet d'une organisation préalable. Ça veut dire que l'organisation qui l'a faite a été prévenue. A été prévenu par le Hamas, et cette organisation, c'est l'organisation à laquelle appartient le Hamas, c'est l'organisation des frères musulmans. Frères musulmans, c'est une organisation planétaire qui a des bureaux dans le monde entier, non seulement dans les pays musulmans, mais partout où il y a des minorités musulmanes. Et cette présence des frères musulmans, elle a pignon sur rue. C'est-à-dire qu'elle est connue. Il y a des adresses, il y a des gens qui sont connus. Et elles sont, en particulier en Occident, pignon sur rue aux États-Unis, pignon sur rue en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc ces frères musulmans ont conçu l'opération. La réalisation pratique a été faite à partir justement de ces communautés musulmanes radicalisées qu'on trouve dans tous les pays du monde, parce qu'il y a des musulmans absolument partout. Et donc, on a eu le droit à une diffusion instantanée et mondiale, parce que là, c'est l'autre grand volet de cette opération, c'est qu'il y a des relais à cette conception des frères musulmans. Ils trouvent d'autres organisations qui vont multiplier l'impact de tout cela. Et cette aide au marketing, on le retrouve d'une part dans les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont diffusé les fake news, et cette fake news en particulier, accompagnée évidemment d'antisémitisme. Et puis surtout les grands médias. Je rappelle quand même que dans le monde musulman, vous avez un média dominant, c'est Al Jazeera, qui fait un travail de fond extraordinairement efficace. Et puis dans les grandes nations occidentales, vous avez trois pays qui sont leaders parce que leurs médias sont très connus dans le monde. C'est les États-Unis avec le New York Times et CNN. Qui sont des rapporteurs et des exploseurs de fake news. Vous avez en Grande-Bretagne The Guardian et la BBC. La BBC, c'est-à-dire la radio la plus, enfin, la radio, la télévision les plus respectées dans le monde qui diffusent les fake news. Et en France, le BIPTIC, Le Monde, avec les chaînes de télévision du service public. Et puis vous avez derrière ces médias, ce qu'on appelle des compagnons de route, des gens qui vont accentuer encore tout ça, en tête desquels l'ONU qui est le complice objectif des frères musulmans, dans la mesure où le Conseil de sécurité, qui est le véritable organisme qui peut prendre des décisions à l'ONU, est bloqué parce que confrontation États-Unis-Chine, c'est l'Assemblée générale qui peut voter un certain nombre de résolutions qui n'ont aucun effet, sauf des effets médiatiques. Et donc, vous avez, sur les 193 pays, vous en avez au moins 150 qui sont anti-occidentaux et qui votent ce qu'on appelle la majorité automatique, qui votent automatiquement contre tout ce qui fait du mal à l'Occident, y compris à Israël. Et vous avez le porte-parole de ces gens-là, qui est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, un Portugais qui se trouve être le porte-parole du Sud global, du tiers-monde anti-occidental. Et puis vous avez...
Daniel Albert,
Oui, je vous en prie.
laissez-moi vous couper. Il nous reste plus que 2 minutes. J'aimerais aborder un sujet avec vous, les conséquences pour Israël de cette guerre de communication.
Alors, les conséquences, elles sont terribles. D'abord, vous avez une perte d'image pour Israël qui ramène Israël aux pires années des années 70, après la guerre des 6 jours, qui a marqué un maximum d'amitié pour Israël. Là, ça s'est retourné brusquement avec la victoire d'Israël. Il a mis 30 ans, Israël, à retrouver une bonne image vers les années 2000. Donc, faudra-t-il 30 ans pour qu'Israël retrouve une bonne image? Ça, c'est la question. Deuxième conséquence, c'est d'avoir occulté le rôle de l'Iran. L'Iran est derrière tout ça. L'Iran est celui qui profite du chaos qu'il a déclenché. Il est en train d'empêcher un tiers du commerce mondial de fonctionner normalement. Et au fond, il n'est pas mis en accusation. C'est absolument gigantesque. Et donc ça, c'est là. Et puis le troisième, évidemment, c'est la nouvelle vague d'antisémitisme du wokisme actif qui met Israël et les Juifs parmi les dominants, contre les dominés et qui fait d'Israël une espèce d'Occident au carré, de leader de l'Occident et donc de pointe avancée de l'Occident qui reçoit un petit peu toutes les haines de l'Occident se concentrant sur Israël.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve la semaine prochaine.